L'extase du papillon. Une émission présentée par Christophe Jubien. L'extase du papillon, deuxième opus, cette émission réalisée grâce au soutien, au partenariat avec les éditions Moon Darren, spécialistes de la littérature chinoise, de la poésie chinoise et de la poésie japonaise. Nous sommes en compagnie de Issa, maître de haïku, né en 1763 à Kashiwabara, un petit village au nord de la province montagneuse de Shinano. Nous avons quitté Issa au chevet de son père malade. Son père, sans sa fin approchée, il divise sa propriété et ses biens entre Issa et son demi-frère Senroku, car le père d'Issa s'est remarié après la mort de sa première femme. Il demande à Issa de s'installer à Kashiwabara et de se marier. Ses dernières volontés exprimées, le père meurt, mais la belle-mère et Senroku refusent de reconnaître les droits d'Issa à l'héritage. Issa, qui est maintenant un peu un étranger à Kashiwabara après une aussi longue absence, n'obtient aucun soutien du chef du village et des autorités locales. Il retourne donc à Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo, la capitale du Japon, et reprend ses activités poétiques et sa vie de maître de haïku. Le jour du nouvel an 1802, il écrit: la branche de pin du nouvel an accrochée à la porte, seul j'écoute la pluie nocturne. La branche de pin du nouvel an accrochée à la porte, seul j'écoute la pluie nocturne. Dans le prunier en fleurs, le rossignol chante, je suis seul. Dans le prunier en fleurs, le rossignol chante, je suis seul. Les cerisiers en fleurs au crépuscule, ceux qui ont une maison se pressent de rentrer. Les cerisiers en fleurs au crépuscule, ceux qui ont une maison se pressent de rentrer. Fraîcheur d'automne, où que je sois, c'est la maison des autres. Fraîcheur d'automne, où que je sois, c'est la maison des autres. Au cours des 5 années qui suivent, Issa effectue 6 voyages à Kashiwabara pour réclamer sa part de biens familiaux. Mais Senroku, qui est marié maintenant et endosse la responsabilité de chef de famille, persiste à refuser de céder la moitié de la propriété que lui et sa mère ont, par leur travail, fait doubler de valeur pendant son absence. Beaucoup de voisins, y compris son oncle paternel, prennent parti pour Senroku. À Edo, la réputation littéraire de Issa grandit toujours. Les disciples se pressent autour de lui, riches et notables, bien qu'il les traite sans cérémonie, apprécient sa compagnie. Il mène une vie pauvre, mais de tout, il parvient à se sortir très confortablement dans ce monde pourtant compliqué, écrit son ami le moine Ichigu. Ne possédant rien, le cœur en paix, fraîcheur. Ne possédant rien, le cœur en paix, fraîcheur. Le premier jour du quatrième mois, jour du changement d'habit, on enfile les vêtements d'été. Ce jour-là, Shitaya, le quartier des dandies d'Edo, est dans tous ses émois. À Edo, Issa habite dans le quartier de Fugakawa, au fond d'une impasse. Zigzagant, ondoyant, une brise fraîche arrive. Zigzagant, ondoyant, une brise fraîche arrive. Je raccroche la moustiquaire et sors manger le soir un riz au thé. Je raccroche la moustiquaire et sors manger le soir. Un riz au thé. Lors de l'hiver 1804, Issa loue dans un quartier pauvre d'Edo une petite maison avec un jardin planté de pruniers et de bambous. Dans la bise d'hiver, une petite hutte. Pourtant, cette nuit est la mienne. Dans la bise d'hiver, une petite hutte. Pourtant, cette nuit est la mienne. Le parfum des pruniers. Peu importe qui me rend visite, la tasse à thé est ébréchée. Le parfum des pruniers. Peu importe qui me rend visite, la tasse à thé est ébréchée. Jour de printemps, 43 années à partager le repas des autres. Jour de printemps, 43 années à partager le repas des autres. Le jour de l'an 1809, dans le grand incendie qui ravageait d'eau, sa maison, la maison d'Issa, est détruite. Il est alors hébergé quelques mois chez son ami Seibi, mais lassé d'être parasite dans la maison de Seibi et d'autres amis, Issa finit par trouver et louer une petite maison dans le quartier d'Ueno. Aspirant à un abri ou profiter de rêveries fugitives, j'ai loué une maison au pied du mont Ueno, bien qu'elle soit minuscule comme une coquille d'escargot. Le locataire précédent, peut-être pour dissiper l'ennui, a planté un liseron du matin qu'il a laissé grimper sur la clôture. Les fleurs sont maintenant toutes fanées et seules restent les graines éparpillées par terre. La scène est plus mélancolique qu'en automne. Les graines ressemblent aux larmes de quelqu'un. Près de l'entrée de la maison, il y a un petit lopin de terre où quelques légumes semblent être cultivés. De tendres pousses vertes ont commencé à sortir de terre, même s'il reste encore de la neige à proximité. Ne sont-elles pas celles qu'on utilise dans les gâteaux de riz le matin du jour de l'an ? Collées au mur, il y a des affiches porte-bonheur pour éloigner les voleurs de la maison. Accrochées au-dessus du fourneau, il y a une corde sacrée en forme de navet long, censée protéger la maison des incendies. Une branche de pin offerte à la divinité de la cuisine a gardé sa couleur vert vif, bien qu'elle soit tombée sur le côté de l'autel. Toutes ces choses suggèrent que l'occupant précédent a envisagé de vivre ici pour toujours. Mais maintenant, il a disparu sans laisser de traces, comme s'il était volatilisé dans les nuages ou dans les montagnes. Est-il possible d'avoir un foyer permanent dans ce monde ? D'ici quelque temps, quelqu'un d'autre sans doute dira exactement ce que je suis en train de dire. Je compatis au sort du précédent occupant jusqu'au froid qu'il a enduré. Je compatis au sort du précédent occupant jusqu'au froid qu'il a enduré. Pour la lune et les fleurs, 49 années perdues à vagabonder. Pour la lune et les fleurs, 49 années perdues à vagabonder. Des chrysanthèmes en fleurs, ici vivait quelqu'un comme moi, un soi-disant ermite. Des chrysanthèmes en fleurs, ici vivait quelqu'un comme moi, un soi-disant ermite. Consentant, certes, mais quel froid, quelle pauvreté. Consentant, certes, mais quel froid, quelle pauvreté. La même année, Issa obtient enfin de son demi-frère Senroku la promesse écrite de partager la propriété familiale en deux. Il remet le document au chef de village qui doit agir comme médiateur. Mais 2 ans plus tard, la situation n'a toujours pas évolué et Issa décide de se rendre à Kashiwabara. Mon village natal. Dès que j'approche, des buissons épineux. Mon village natal. Dès que j'approche, des buissons épineux. Enfin j'arrive, la lune du pays natal, cachée par les nuages. Enfin j'arrive, la lune du pays natal, cachée par les nuages. Le 19e jour du 5e mois, il pleut quand j'arrive à Kashiwabara, tôt le matin. Je vais me recueillir sur la tombe familiale au mont Komaru. Après avoir vu le chef du village, je me rends à la maison familiale. Mon pressentiment de la veille se trouve justifié. Il ne me propose même pas une tasse d'eau chaude. Je repars précipitamment. De retour à Edo, peu à peu, Issa en vient à être convaincu qu'il doit s'installer à Kashiwabara coûte que coûte. Le coucou, les cerisiers de Shinano doivent être en fleurs. Le coucou, les cerisiers de Shinano doivent déjà être en fleurs. Au cours de l'hiver 1812, il annonce à son entourage dans la capitale qu'il va se retirer à Shinano et part une nouvelle fois à pied pour Kashiwabara, où il arrive à la fin de l'année. C'est là qu'il écrit ce haïku légendaire. C'est donc ça, ma dernière demeure. 5 pieds de neige. C'est donc ça, ma dernière demeure. 5 pieds de neige. Il loue une chambre à l'auberge de Kashiwabara et annonce son intention d'envoyer une requête au shogun pour que cette affaire d'héritage soit réglée et son droit enfin reconnu. C'est là une entreprise risquée autant pour la partie adverse que pour lui s'il est débouté. Mais finalement, grâce à l'intervention du supérieur d'un temple, on parvient à un compromis. La propriété et les biens du père sont partagés de façon égale entre Issa et son demi-frère Senroku, et un mur est construit pour diviser la maison en deux. 11 années après la mort de son père, Issa, maintenant âgé de 50 ans, s'installe enfin dans la maison familiale de Kashiwabara. Miraculeux, dans la maison où je suis né, premier matin de printemps. Miraculeux, dans la maison où je suis né, premier matin de printemps. Enfin installé, Issa accomplit la deuxième volonté de son père à son sujet. Au début de l'année 1814, il épouse Kiku, Chrysanthème, une jeune femme de 28 ans, d'humeur joyeuse, dont le père est un riche fermier dans le village voisin d'Akagawa. Kiku est une femme pragmatique, au fort tempérament, elle sait lire et écrire et a un savoir-faire général qui est très peu courant chez les femmes du Japon rural d'alors. À son propos, ce poème de Issa. Les piqûres de puce sur sa jeune peau sont adorables. Les piqûres de puce sur sa jeune peau sont adorables. Le conflit familial entre Issa, sa belle-mère et son demi-frère, eh bien, c'est maintenant aplani. Les vieilles blessures ont fini par cicatriser et les deux familles, celle d'Issa et celle de Senroku, toujours séparés par le mur, se réunissent souvent. Deux maisons où l'on prépare des gâteaux de riz, pluie d'automne. Deux maisons où l'on prépare des gâteaux de riz, pluie d'automne. Un jour, le seigneur de Kaga, Maeda, celui-là même dont le passage avec son cortège avait tant impressionné Issa lorsqu'il était enfant, s'arrête à l'auberge de Kashiwabara. Au courant de la réputation littéraire d'Issa, Maeda convoque le chef du village et lui donne l'ordre d'aller chercher le poète. Le chef du village, étonné mais fier, comprenant que l'honneur qui est fait à Issa rejaillira aussi bien sur la réputation du village que sur la sienne, s'empresse d'aller chercher Issa. L'ayant trouvé, il lui dit « Aujourd'hui, le seigneur de Kaga, en route vers Edo, s'est arrêté à l'auberge. Il a entendu parler de ton art et aimerait avoir le plaisir de te rencontrer. Comme il s'agit de l'ordre d'un seigneur de millions de boisseaux, dépêche-toi d'y aller avant qu'il ne change d'avis. » Issa de répondre, « L'art ne saurait être concerné par un ordre. Si ce monsieur pense qu'il peut commander à l'art, quelque noble personnage qu'il soit, je n'ai aucune envie de le rencontrer. » Devant ce refus brutal et inattendu, le chef du village, interloqué, reprend « Dire ordre est une maladresse de langage de ma part. En fait, il est très épris d'art et prendrait grand plaisir à te rencontrer. » Issa finit par accepter. Pourtant, l'apparence d'Issa, l'apparence extérieure, sa mise peu soignée, préoccupe le chef du village. Ce n'est pas là, pense-t-il, une tenue correcte pour se présenter devant le daimyo. Mais craignant d'irriter Issa en lui faisant remarquer, il se contente de l'avertissement suivant. « En sa présence, j'espère que tu surveilleras ton langage et que tu ne manqueras pas de le flatter. » Tout sourire, Issa se dirige donc vers l'auberge, accompagné par le chef du village. Quand il arrive, Maeda, seigneur de Kaga, lui demande sur un ton mesuré en quoi consiste son art du haïku. Issa lui répond « La voix de la poésie est la même que celle du Bouddha ou de Confucius. Mais ceux qui oublient le véritable sens de cette voix et qui, en vain, n'en retiennent que la forme en sont les profanateurs. Les poètes d'aujourd'hui sont ainsi. Si l'on retourne à l'esprit véritable en se consacrant entièrement à cet art, alors les fleurs et les papillons, le vent et la lune restent bien sûr des thèmes, mais aussi tout ce qui se passe devant nos yeux ou est ressenti dans notre cœur et matière à haïku. Avec ces artistes dévoyés qui ne vouent pas leur cœur et leur âme à la voix véritable, mais qui, profitant de la demande de poésie, fabriquent des poèmes de 17 syllabes, ainsi que ces hommes de haut rang qui, ignorant tout des conditions de vie des gens ordinaires, font de cet art un simple passe-temps avec les uns et les autres, bien je ne puis discuter de la signification d'un tel art. » Le chef du village et les officiels présents n'en croient pas leurs oreilles et, craignant la réaction du daimyo, n'osent le regarder en face. Maeda change, il est vrai, légèrement de couleur, mais aussitôt, louant la franchise et la sincérité d'Issa, lui fait don de deux costumes de saison. Issa les regarde en hésitant, mais finalement les accepte. Après avoir salué, il est sur le point de se retirer quand, avec un regard envers le chef du village et le daimyo, il ajoute « Ah oui, j'allais oublier la chose la plus importante que le chef du village m'a instamment recommandée. J'allais oublier de vous flatter. » Issa s'incline avec déférence et s'en va, laissant le chef du village dans la plus grande confusion. Tel était notre ami poète, notre ami Issa. Au début de l'été 1816, un premier enfant, un garçon prénommé Sentaro, naît de l'union de Kiku et de Issa. Issa a maintenant 52 ans. Mais le bébé meurt âgé seulement d'un mois. Issa et Kiku sont accablés de douleur. À la fin de l'été, mari et femme recouvrent leurs forces et reprennent leurs occupations. Issa est attelé à un nouveau projet, partir à Edo, la capitale, pour compiler un recueil de haïku et célébrer ainsi dignement les 61 ans de son disciple Matsui Shu, intitulé Tsue no Take, canne en bambou. Kiku tombe enceinte peu de temps après le retour d'Issa de Edo. Cette perspective d'être de nouveau père le réjouit. Issa arrête de fumer et de boire et prie pour le bon accouchement du bébé. Bientôt naît leur deuxième enfant, une fille prénommée Sato. Malgré la naissance de sa fille, Issa ne change pas sa manière de vivre. Il continue à passer plus de temps en déplacement qu'à la maison. Il se rend dans les diverses villes du nord de Shinano pour prodiguer ses conseils aux disciples locaux sur la composition des poèmes, compose des haïkus avec eux et les aide dans leur projet de compilation d'anthologie de haïkus. Le premier semestre de l'année 1819 semble à Issa être le printemps de sa vie. Il est en bonne santé, et sa famille aussi. Il a un revenu stable provenant de ses terres et de ses activités professionnelles. Il est en bon terme avec la famille de Senroku, son demi-frère, et les villageois. Au début de son journal, qui paraîtra sous le titre de Oragaharu, le printemps de ma vie, souvent considéré comme son chef-d'œuvre, couvrant l'année 1819, Dans son introduction pour célébrer le nouvel an, Issa écrit « Nous vivons dans un monde de poussière. Au fond, je désapprouve ce que les gens font ordinairement, notamment célébrer le nouvel an avec des grues et des tortues et s'échanger des vœux creux, comme les vœux adressés par les mendiants qui frappent à la porte à cette période. À mon avis, les gens comme moi qui vivent dans une maison délabrée devraient célébrer l'occasion d'une manière appropriée à notre situation délabrée. Ainsi, je n'accroche pas de décoration en branches de pin et ne balaye pas la poussière de la vieille année dans la maison. Cette année encore, je laisse tout cela au Bouddha pour accueillir le nouveau printemps. Le bonheur que je ressens, tout juste moyen, le printemps de ma vie. Le bonheur que je ressens, tout juste moyen, le printemps de ma vie. Allongée, donnant le sein au bébé, elle compte ses piqûres de puce. Allongée, donnant le sein au bébé, elle compte ses piqûres de puce. Mais, dans son journal un peu plus loin, voici ce que nous lisons sous la plume d'Issa. Quand la joie atteint son apogée, le chagrin pointe, telle est la loi du monde. Petit pain, encore loin d'avoir joui de l'amusement de mille années. Notre enfant, sa seconde feuille à peine déployée, pleine de rire, est marquée par l'esprit féroce de la variole, avec la rapidité de l'eau submergeant une personne endormie. Et en un rien de temps, elle est recouverte de cloques. Comme la première fleur de l'année, frappée par la pluie boueuse alors qu'elle est en train d'éclore, se fane. Quiconque la voit partage sa souffrance. Deux ou trois jours plus tard, les cloques commencent à sécher et les croûtes se forment, friables comme de la boue sur une pente après le dégel. Nous nous réjouissons, applaudissons à notre chance. Avec un sac de riz confectionnant une cagoule et la plongeons dans un bain additionné de saké pour chasser le mauvais esprit, mais elle continue de s'affaiblir, l'air moins encourageant aujourd'hui qu'hier, jusqu'à ce que finalement, le 21e jour du 6e mois, elle disparaisse de ce monde au moment où éclot le liseron du matin. Sa mère étreint son visage mort et éclate en sanglots. Qui l'en blâmerait ? L'heure de cet enfant est venue. L'eau qui coule jamais ne retourne à sa source, et la fleur tombée ne remonte jamais sur sa branche. Je m'efforce de me donner un air résigné, mais je ne peux tout simplement pas couper le cordon de mon affection. » Et de ponctuer par ce haïku célébrissime. « Un monde de rosée, que ce monde de rosée. Et pourtant. » Trente-six jours après la mort de Sato, Issa écrit « Dans le vent d'automne, les fleurs rouges qu'elle aimait cueillir. Dans le vent d'automne, les fleurs rouges qu'elle aimait cueillir. » Pour surmonter la perte de sa fille, Issa se consacre entièrement à ses activités poétiques. Au milieu de l'automne, il reprend sa tournée à travers le nord de Shinano. Au cours de l'hiver, il décide de voyager jusqu'à Edo et parvient jusqu'à Takayama, un village à quelques 6 lieues au sud-est de Kashiwabara. Puis il change d'avis et retourne chez lui. Dans une lettre adressée à un de ses disciples quelques mois plus tard, il rappelle « L'hiver dernier, j'ai pris ma canne et commencé à marcher vers l'est, me répétant à moi-même « Pekno !» Les gens m'appellent. Quel froid! La pluie mélangée de neige fondue commença à pleuvoir à torrents, et en un rien de temps, le chemin devient extrêmement boueux. L'idée d'avoir à traverser la passe d'Usui avec mes jambes défaillantes me tracassait avant même d'y arriver. Finalement, je décidai de rebrousser chemin. Il ça termine son journal Le printemps de ma vie à la date du 29e jour du 12e mois de 1819 sur ce poème à l'adresse du Bouddha. Quoi qu'il en soit, je m'en remets à toi. Fin de l'année. Quoi qu'il en soit, je m'en remets à toi. Fin de l'année. Un an après la mort de Sato, au début de l'hiver 1820, naît un troisième enfant, un garçon prénommé Ichitaro, littéralement pierre, sous-entendu indestructible comme la pierre. Deviens un roc, mon petit caillou, Ichitaro. Deviens un roc, mon petit caillou, Ichitaro. Quelques jours après la naissance d'Ichitaro, en chemin vers Asano, à quelques 5 lieues de Kashiwabara, sur la route enneigée, Issa glisse et tombe. Il a une attaque et un côté de son corps reste paralysé. Il doit louer un palanquin pour rentrer chez lui. Heureusement, l'attaque n'est pas très sévère et il commence à récupérer en se soignant avec du jus de navet long. Cependant, peu de temps après sa guérison, le malheur s'invite à nouveau. Ma vieille épouse, Kiku, est têtue comme une mule. Chaque fois que je lui donne un conseil, ma voix n'est à ses oreilles rien d'autre que le sifflement du vent. Résultat, nos deux premiers enfants sont morts de façon précoce. Pour notre troisième enfant, redoutant que la même chose ne se reproduise, je l'ai nommé Ichitaro, afin qu'il soit fort comme un roc, immunisé contre la pluie et le vent, et jouisse d'une vie longue et insouciante. J'en explique la signification à sa mère et la met soigneusement en garde de ne le porter sur son dos sous aucun prétexte, avant que 100 jours ne soient passés et que ce petit caillou ne soit devenu un grand roc. Pourtant, pour une raison ou une autre, alors qu'il n'est âgé que de 96 jours, elle le met sur son dos. Il meurt étouffé. Quelle tragédie! En moins de temps qu'il n'en faut pour retourner la paume de la main, son joyeux sourire s'est transformé en l'expression sinistre de la mort. Le prédestiné Ishi s'avère désigner sa pierre tombale. Quel péché ai-je donc commis dans une vie antérieure pour que les malheurs s'abattent ainsi sur moi? Toujours lors du nouvel an 1822, Issa écrit: on sait que le Bouddha, lorsqu'il a vu un jour la lumière des étoiles à l'aube, a réalisé quelle vie erronée il avait menée pendant ses 49 dernières années. Étant des crétins de campagne, je me suis égaré dans des chemins obscurs successifs pendant les 59 années de ma vie. Je suis trop stupide pour m'approcher de la lumière de la lune que j'aperçois au loin. Quel que soit l'effort que je fasse pour m'améliorer, il me mène encore plus loin dans le labyrinthe de la confusion, comme un effort fait par un aveugle essayant de lire un livre ou un infirme luttant pour danser. Si je dois rester crétin à l'avenir, soit. Je vais donc passer le reste de ma vie comme un crétin. À l'âge respectable de 60 ans, le printemps arrive. De la neige devant la porte. À l'âge respectable de 60 ans, le printemps arrive, de la neige devant la porte. Nous retrouvons Issa Kobayashi la semaine prochaine dans la nouvelle édition de L'Extase du Papillon, émission réalisée grâce au concours des éditions Mundaren qui ont publié ce livre sur lequel je me suis largement appuyé. Issa, et pourtant, à la semaine prochaine.